Dans cette troisième saison, Laura Bisdaillon, membre du CREFO, et ses invités discuteront du thème de la production et de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans ces divers contextes du monde. Dans cet épisode, elle rencontre Seo Kyung-hun, professeur titulaire à l'Université nationale de Séoul.
La jeunesse de ce monde-là a découvert une source de consolation et solidarité, parce que je ne suis pas seule là-dedans. Les autres sont pareils.
Bienvenue à Quoi de neuf?
Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Seo Kyung-hun, qui est professeure titulaire au département des communications à l'Université nationale de Séoul en Corée du Sud. Elle a obtenu un doctorat en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Grenoble en France, et elle a enseigné les médias et culture à l'Université de Bordeaux pendant presque 15 ans. Elle est l'auteur de 3 livres, dont Hallyu, à l'ère numérique et la globalisation, publié en coréen en 2013, Transnational Convergence of East Asian Pop Culture, en 2021, en anglais, et en coréen et traduit en japonais, vietnamien et indonésien, BTS sur la route. Madame Hong, soyez la bienvenue.
Bonjour, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être avec vous.
Ah, je vous en prie. Nous sommes ravis de vous recevoir. Donc, Madame Hong, tu es polyglotte, c'est-à-dire que tu parles le coréen, le français et l'anglais. Pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours linguistique? Comment se fait-il qu'une coréenne parle en même temps l'anglais et le français et peut-être plus de langues encore?
Ah non, je parle pas plusieurs que ça. Déjà, trois langues me suffisent, me rendent ma vie assez compliquée. Mais bon, je suis née à Séoul en 63 et bien sûr, donc la langue coréenne est ma langue natale. Et le français, j'ai pas du tout l'entourage français ou aucun autre lien avec la France. Seulement, en grandissant, la culture française m'a fascinée. Donc j'ai décidé seulement aller étudier la littérature et la langue française à l'université et puis l'Université nationale de Séoul à l'époque. Donc j'ai commencé comme ça, mais c'était autour de troisième année de l'université, je pense. Je suis tombée dans une pensée que est-ce que c'était difficile apprendre la langue française vraiment d'une façon scolaire. Alors les romans épais, Balzac ou Stendhal, tout ça, je devais consacrer combien de temps avec des mots que je comprenais pas, donc avec dictionnaire à la main. Je me disais qu'est-ce que cela va m'emmener finalement, que je vais bien peut-être apprendre d'ici 10 ans une langue que peut-être ma patrie n'utiliserait pas beaucoup non plus. Donc en même temps que bien sûr que j'aimais la littérature tout court, mais j'étais en train d'étudier une langue que je vais jamais maîtriser comme les Français à leur naissance qu'ils avaient naturellement eu. Je réfléchissais je tombais dans une sorte de souci presque existentiel, qu'est-ce que je suis en train de faire, mais pendant cette période-là, dans un cours que j'ai rencontré Roland Barthes. Donc, il y a autre voie, parce que lui, après Saussure, il disait qu'il y a des sciences de signes est possible, et surtout c'est Roland Barthes qui nous a montré comment cette connaissance de langue et la littérature peut être utilisée pour produire des discours sur la culture tout court, la culture de masse, culture populaire, donc j'ai trouvé une voie, une sorte de nouvelle voie. J'ai changé de ma spécialité, donc je suis entrée pour master mais en communication cette fois-ci.
Et donc ta passion pour le français, donc à ses origines finalement, au niveau de tu avais peut-être dans la quinzaine comme ça, ou à l'école secondaire, vers là, ou...
Oui, c'est oui, au lycée, j'avais deuxième langue étrangère, j'ai choisi le français, tout simplement. Mais bon, c'était deux cours d'une heure par semaine, donc c'était vraiment la base de la langue qu'on apprenait, pas au-delà. En plus, à l'université, c'est vrai qu'on apprend à lire, mais pratiquer une langue que peut-être il y a pas beaucoup de communautés françaises en Corée encore à l'époque, parce que c'était je suis entrée à l'université 81, imaginez. Donc mon attitude en français, je l'ai acquis pratiquement en arrivant en France pour mes études doctorales, 1989. C'est à partir de ce moment-là que mon voyage langagier a vraiment commencé.
Ah oui, parce que si déjà on entend des études doctorales, ça veut dire c'est un français déjà très poussé, c'est des connaissances qui sont profondes.
Oui, mais quand je suis arrivée, il faut bien comprendre à l'époque comment c'était l'ambiance universitaire en Corée. La Seoul National University, l'Université nationale de Séoul, était un des centres de lutte contre la dictature militaire à l'époque. Toutes mes années, c'était la lutte anti-impérialisme américaine, culturel, tout ceci. Mes amis, lorsqu'quand ils devaient choisir partir pour ces études, majoritairement ils partaient pour les États-Unis. Alors je trouvais que moi j'ai la possibilité de faire autre chose. J'ai quand même la base de langue qui me permettait d'aller quand même en Europe pour mes études. Alors j'ai opté sans hésitation la France. Et en plus, l'amour pour la langue française était bien quand même rester sans être, comment dirais-je, consumé. Vous voyez que, parce que j'ai arrêté mes études littéraires pour changer, pour aller à la communication. Donc, pour moi, c'était une bonne solution pour faire les deux. J'entre dans la langue française en même temps pour étudier et pour me former en tant que chercheur en communication. Voilà, c'était à Grenoble, l'université de Grenoble.
Parce que c'est un parcours un peu particulier pour un ressortissant coréen, l'ex-coréen que je avec qui je maintiens des liens d'amitié ou des liens de professionnels académiques sont beaucoup plus orientés vers les États-Unis.
Oui.
Donc c'est en France finalement que tu as commencé ta carrière de scientifique, hein, dans les médias et dans les communications.
Oui, bien sûr. Oui. Bon, ben, j'ai fait 2 années de l'étude de master, et puis j'ai fini le programme doctoral à l'Université nationale de Séoul, parce que bon, après la fin d'études, j'ai passé quand même 4 ans de cours master et doctoral dans l'Université nationale de Séoul. Donc, j'étais bien quand même. Théoriquement bien formé, et suffisamment pour que j'aie la confiance en moi pour aller étudier en France avec une langue que je ne maîtrisais pas. Je me voyais pas aux États-Unis avec les vraiment il y a des communautés coréennes bien instaurées qui en reproduisant en miniature toutes les pressions socio-culturelles coréennes mais aux États-Unis. C'était ça à peu près, hein. Mais je voulais pas du tout revivre ça pour pour mes études doctorales. Et parce qu'à l'époque, même les autres Coréens voulaient opter l'Europe, c'était trop risqué parce qu'au niveau de la langue, il fallait vraiment vraiment compter plusieurs années de plus, hein, pour les études. Mais pour moi, c'était pas le cas. Voilà. Bon, j'ai opté la France. Même maintenant, je suis une personne, même dans la communication, hein, ici dans la communauté des chercheurs universitaires, je suis vraiment une des rares personnes qui ont doctorat en Europe. Voilà, encore moins. Il y en a qui ont fait leur doctorat en Allemagne, en Angleterre, mais très peu, très très peu en France. Surtout au-delà de la littérature, il y en a très très peu.
Ah oui, donc c'est une minorité dans une minorité, quoi. Peut-être on pourra passer à ton programme de recherche, hein, tes écrits et qui me passionnent depuis quelque temps que je te découvre et je découvre tes contributions scientifiques. Hein. Toujours utile que dans le contexte torontois dans lequel je vis, dans lequel je recherche, dans lequel j'enseigne, il y a quand même un bon nombre de jeunes Coréens, hein, qui sont issus de parents qui sont nés en Corée, qui eux ils sont nés ici. Il y a quelques étudiants qui sont des étudiants étrangers, comme tu l'étais par exemple en France. Et nous avons à Toronto un quartier coréen et bien sûr de plus en plus de Coréens, une présence de plus en plus conséquente, hein, de la Corée du Sud à Toronto, et tout ça qui m'a mené à vouloir échanger avec toi et de faire connaître tes contributions scientifiques. Alors, j'aimerais bien qu'on remonte un peu dans le temps pour discuter des relations sociales, historiques, culturelles et technologiques qui ont rendu possible ce phénomène qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Hallyu, donc un mot qui vient du chinois, qui signale une industrie culturelle populaire coréenne en effervescence à travers le monde depuis la fin des années 90, hein. Et est-ce que j'ai raison de croire que les Jeux olympiques à Séoul en 88 ont été un point marquant dans l'histoire de l'industrie culturelle populaire coréenne, communément appelée la K-pop, qui est à présent à sa quatrième génération? Une question plutôt ouverte, n'est-ce pas, afin de faire connaître tes écrits, tes contributions dans le domaine de Hallyu.
Oui, bon, j'y vais essayer de raccourcir quand même parce que c'est une longue histoire. Avant même de venir en France pour mes études doctorales, j'ai déjà commencé à publier en tant que critique culturelle. Mon intérêt académique était la culture populaire et de masse, là-dedans comme lutte idéologique aussi, que lutte de représentation, tout type de discours concurrentiel qui se manifeste à travers différents types de représentations populaires. Donc c'est quand je parlais de Roland Barthes, c'est ça aussi que par la suite l'auteur qui m'a influencé plus, que c'était Umberto Eco et Michel Foucault. Donc je suis dans cette lignée de pensée. Donc, quand je suis venue en France, c'était 89, le monde sur lequel j'ai passé toutes mes années universitaires était écroulé, changé, parce que c'était la fin du mur de Berlin. Donc, ce n'est plus maintenant la période idéologiquement divisée. Après, je suis rentrée après mes études, mais je suis revenue pour en tant que maître de conférence à l'université de Bordeaux. Alors cette période-là, à peu près 8-9 ans, donc entre 2000, parce que j'ai commencé à mon travail à l'université de Bordeaux 2000, et j'ai joint l'Université nationale de Séoul 2013. Donc pendant cette période-là, j'étais à Bordeaux, et c'était pendant cette période-là, phénomène de Hallyu est éclaté en Asie de l'Est, en Asie tout court, au départ en Asie de l'Est et toute l'Asie. Donc j'observais ce phénomène-là de l'Europe. Et quand les chercheurs asiatiques ont été en train d'analyser le phénomène de Hallyu, ainsi comme appelé par les Chinois au départ, ils pensaient c'était phénomène asiatique. Mais mon observation à moi, en plus je suis située de loin, était déjà parce que c'était question de technologie, donc environnement médiatique et technologique, qui est Internet, la vitesse de connexion, tout ceci, et puis développement de cette structure qu'on appelle P2P par streaming, qui permettait les individus sans violer trop les normes de l'époque, que échanger librement tout le contenu audiovisuel entre eux. Voilà. Donc, avec cette possibilité technologique, j'ai observé à l'époque que construction de infrastructure de cet échange par les fans, donc auditeurs passionnés tous les contenus, mais parmi tous les contenus qui m'intéressaient plus, c'est comment les dramas sud-coréens. Alors là, j'ai imaginé vraiment pas du tout que francophones, les Français, Françaises peuvent aimer ce contenu qui est drama, donc, série télévisée sud-coréenne, qui jusqu'alors qui est vraiment très très coréenne, parce qu'on n'a jamais produit une série coréenne ou tout simplement des films ou tout contenu audiovisuel pour exporter, jamais. Donc c'était pur phénomène de réception. C'était pas un phénomène de propagation volontaire comme certaines chercheurs ces jours-ci ont envie de croire, parce que voilà, et comment la Corée qui est est industriellement développée, économiquement riche, mais peut exporter de la culture, c'est pas possible. Donc il devait y avoir une raison, c'est-à-dire une volonté gouvernementale. C'est pas du tout vrai. Donc, alors là, j'entre donc en tant que chercheur études culturelles. J'ai commencé à observer en ligne comment c'est possible tout simplement cette voie interculturelle. Alors j'ai découvert le résultat de cette première recherche. Et est publié dans mon premier livre qui est Hallyu à l'ère numérique et la globalisation, tout simplement. Parce que même jusqu'à maintenant, le phénomène de Hallyu, c'est un des phénomènes interculturels qui est en rapport très, très, très étroit avec cette technologie numérique et la globalisation. C'est les deux qui permettaient ce genre d'échange culturel sans limite, mais à travers culture de collaboration entre les fans. Ce livre est basé sur mon observation de 3 ans sur une communauté de fans francophones des séries coréennes. C'est publié 2013, donc ça, on peut imaginer que mon dernier semestre en France, était rangé, consacré pour écrire ce livre-là. Quand j'écrivais ce livre-là, était éclaté le phénomène de Psy avec Gangnam Style. Donc j'étais sûr 100% que deuxième vague déferlant de Hallyu, si c'est vraiment dans le monde, ce sera par K-pop. Donc le dernier chapitre était consacré sur K-pop, et puis je joins l'Université nationale de Séoul 2013, et puis à l'époque BTS a fait son début 2013, mais bon, je connais pas de leur début, mais vers la fin 2015-16, à travers leur album Hyang Yanhwa, donc Young Forever. Alors j'ai compris que c'est pas un phénomène de K-pop qu'on connaissait en Asie. Il allait au-delà.
Est-ce que tu pourrais peut-être nous situer dans ton terrain, finalement, nous faire revenir en arrière? Alors que tu étais à Bordeaux et que tu as mené des enquêtes auprès des Français qui étaient eux fans de groupes de musique coréenne, et c'est comme ça que tu as appris davantage les détails sur comment les étrangers, donc les personnes non coréennes, s'attachaient, les comment et les pourquoi de leur attachement aux séries télévisées coréennes. Et est-ce que j'ai raison de croire que la photo qui figure sur la couverture de ton livre Hallyu à l'ère numérique, à la globalisation, n'est-ce pas, tu l'as prise dans la cour d'une école primaire ou secondaire dans le langage d'ici?
Un lycée.
Voilà, donc un lycée français, mais à Bordeaux, et ce fut pour toi un moment révélateur, n'est-ce pas, dans la mesure où ton interprétation de l'assemblage des noms donc en japonais, en coréen, et des slogans a déclenché vraiment une réflexion de longue haleine pour toi sur la transmission et la réception des discours médiatiques. Est-ce que tu pourrais nous en parler?
Oui. Donc à l'époque, j'ai commencé déjà à observer comment cette communauté de fans des séries coréennes était possible à Bordeaux. C'était ni Paris ni Marseille. Ce sont des villes internationalement, voilà, interculturelles. Mais Bordeaux, c'est beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus univoque. Donc ça m'a interpellée découverte de cette scène de rassemblage des signes, les noms de groupes K-pop sur un banc dans le lycée bordelais m'a interpellée très très fortement. C'est-à-dire que c'était non seulement les séries coréennes, mais K-pop avec. Et ces deux phénomènes sont pas à part, c'est lié. Parce que là, je connaissais, c'était lié parce que j'observais des fans de séries, parce que dans les séries coréennes, il y avait OST, c'était original soundtrack, et beaucoup de original soundtracks sont chantés par les membres de groupes K-pop, et il y a même les stars des idoles des groupes K-pop. Jouer dans les dramas, donc c'est pur cross-média type à l'Asie de l'Est. Au départ, c'est inventé par les Japonais, mais rendu concurrentiel par les Coréens, comme vous connaissiez peut-être déjà. Le système de production d'idoles dans l'entertainment est pareil. La naissance est aux États-Unis, mais maintenant, production coréenne est vraiment dominante. Voilà. Donc quand j'ai pris cette photo là, j'ai pensé en plus c'était dans un lycée. Si c'était université, c'était beaucoup plus compréhensible parce que bon là c'est leur communauté multilanguagère se trouve concentrée dans les dans l'université. En plus même les séries peuvent être circulées ainsi dans le monde parce que ce sont des étudiants universitaires qui traduisaient volontairement en investissant leur temps et l'effort. C'était très très curieux de voir au départ, c'était traduction anglaise était d'abord, après à partir de cette sous-titrage anglais, on traduisait vers différentes langues, mais en très très vite, ça allait direct, sans traduction sous-titrée anglais. Et en plus, quand on parle de francophonie, vraiment, c'est une collaboration multicontinentale. Il y a des nord-africains, français, québécois, et belges, ou même, je voyais vraiment leur vitesse de traduction ralentissait pendant la période de, par exemple, d'examen. Donc, c'était très curieux d'observer tout ceci, et puis surtout le contenu de leurs discussions. Qu'est-ce qui les fascinait ainsi? Donc, le rôle des stars masculines était très important, dont la masculinité alternative que cette culture d'entertainment de coréenne et surtout l'Asie de l'Est ensemble, l'Asie de l'Est compte énormément. Donc, cette masculinité n'est pas seulement genrée. Il y a question raciale, donc ethnique, était inscrit là-dedans. Donc, au-delà de questions de production audiovisuelle et industrielle. Donc, c'est commencé comme ça. Et puis, depuis que je suis arrivée en Corée, j'ai rencontré donc le phénomène BTS. Tout de suite, j'ai commencé le deuxième livre. J'ai pensé au deuxième livre, et puis une bonne occasion de me lancer dans cette recherche était arrivée lorsque KBS (Korean Broadcasting System), c'est la télévision publique, m'a contacté pour faire une émission spéciale sur BTS. À l'époque, en préparation et puis lors de tournage, j'ai rencontré Tang Xiao, le patron de Pickit à l'époque, Hybe actuellement, qui est le patron de cette société qui a produit BTS. Donc, on en a parlé de collaboration académique entre l'université et puis piquette. Et puis voilà, ils m'ont aidé d'accéder au site, c'est-à-dire que lors de tournage, pour que je puisse rencontrer les vrais fans sur place, parce que en ligne c'est beaucoup limité, parce qu'on n'a pas de en ligne, on ne peut pas voir les données sociodémographiques, donc sur place.
Et peut-être qu'on pourrait parler davantage sur ce groupe BTS, le Bangtan Sonyeondan, hein, les scouts par balles, les scouts blindés, Bulletproof Boy Scouts, j'ai regardé les traductions. Donc c'est un groupe de 7 artistes qui sont dans la fin vingtaine, et c'est un groupe qui connaît un succès fou depuis environ 10 ans ou plus, hein, c'est ça?
Non, leur début est 2013, donc et bon, ils étaient ensemble bien avant leur début, parce que ils devaient passer quelques années en tant que soi-disant c'est trainee. Bon, eux ils connaissent depuis vraiment adolescents, mais nous on connaît, le public connaît depuis 2013, mais popularité internationale débute 2016.
2016,
d'accord. Vraie popularité, voilà.
Donc, ils sont, selon toi, hein, ils attestent une grande particularité. C'est un groupe pas comme les autres, selon toi, dans tes écrits, dans tes discours scientifiques et populaires à la radio et qu'on peut voir aussi sur YouTube. À quels égards est-ce que ce groupe-là, le BTS, est particulier? C'est quoi qui rend particulier ce groupe parmi tant d'autres?
Oui, tu as dit que parmi tant d'autres groupes K-pop existaient depuis mi-90. Mais ce courant de musique populaire est pas mal critiqué à cause de le système, c'est-à-dire que les jeunes devaient passer plusieurs années en tant que pour améliorer leur capacité de performance, donc chanter, danser, même jouer, parler les langues étrangères aussi, et apparaître devant l'écran, parce que eux ils chantent pas seulement, comme je vous ai déjà dit, que ils jouent dans les dramas, même ils occupent l'espace médiatique,
hein. Et c'est des danseurs, c'est des athlètes aussi.
Bah, pour mieux danser, bien sûr, ils ont même l'émission, on a même une émission chaque année pendant la période de fête, que on invite les idoles pour faire une sorte de olympique des idoles, mais ils sont très bons, ils sont bien. Bon, ce système est beaucoup critiqué, surtout par les critiques occidentaux, parce que c'est à l'encontre de leur idée d'artiste, tout simplement. Parce que c'est fabriqué, entraîné comme des robots. Ce sont des mots que tu as entendus un millier de fois. Ils peuvent chanter, danser comme des robots, maquiller comme les filles, tout ceci. Mais que quand on connaît, il y avait très peu de critiques sur la musique en tant que telle. Il fallait quand même se poser des questions. C'est-à-dire que ce sont des critiques qui ont été faites par les gens qui n'écoutent pas. Et même si écouter, c'est une ou deux chansons, allez, c'est très électronique, donc il y a moins de participation humaine. Donc c'est tout de suite industriel, et ça va avec l'idée de Corée industrielle, exportateur, voilà, tous ces discours étaient formés ainsi. BTS a surmonté ceci parce que eux, ils ont débuté avec une image idol, hip-hop idol. Hip-hop et idol, ce sont deux antithèses. Hip-hop, dans la culture hip-hop, qui est important, c'est l'authenticité. Eux, ils devaient parler de leur vécu. Ils devaient avoir leur voix pour parler. Donc, ils devaient devenir sujets eux-mêmes, pas l'industrie, pas la société. Entertainment. Voilà. Et cette mission était dure, mais bien choisie par la société, parce que les 7 membres, au départ, pas tout, mais au moins 2 membres, donc leader RM et Suga, composent et écrivent leurs lyriques. Ce sont déjà deux grands compositeurs bien reconnus à très jeune âge dans le terrain. Donc, Peng Xiuyuk, le patron de Piquet, avait construit sur cette capacité-là les danseurs invités, les autres chanteurs, etc. Donc, sept garçons sont formés pour débuter. Donc, leur image en tant que hip-hop idol déjà dépasse. Les aide à surmonter cette idée reçue sur K-pop et pour les sous-estimer. Mais en même temps, là, il faut voir la qualité de musique. Les gens qui critiquent la K-pop, c'est majoritairement, ils n'écoutent pas. Ce sont très, très bonnes productions. Et de là, il y a un deuxième élément très important. Ils ont communiqué énormément. Parce que avant, dans la culture de K-pop, la société, les sociétés entertainment contrôlaient énormément leur communication directe par peur qu'ils entrent dans parce qu'ils sont tellement populaires par peur qu'ils entrent dans certains scandales ou mauvais mots placés ici ou là, c'est pas bon. Mais eux, ils avaient beaucoup plus de liberté. Donc, en tant que sujet de création, et puis ils communiquent librement avec le monde entier, cela leur permettait largement de dépasser cette limitation de idole qui confinait tous ces artistes dans les mauvaises images. Mais ils ont réussi à le dépasser. C'est ces deux éléments très, très importants qu'ils avaient leur liberté de communication et puis création. Qui allait dans l'idée même de l'idée d'artiste développée par la critique critique culturelle de West, voilà.
Et aussi, il faut dire qu'ils ont ils sont soutenus par un public hétéroclite à l'échelle mondiale. Et si j'ai bien compris, ils ont fait un discours au nom d'une jeunesse mondiale à l'ONU. C'était quoi les propos et c'était quoi le contexte par exemple de leur discours? Mais c'était à quelle époque?
Oui. Dans leur ce sont des groupes qui parlent avec leur album dans le monde qu'on écoute une chanson sur Spotify. C'est-à-dire que leur message est construit sur la durée. Ce message est l'amour propre pour une génération qui croit perdue parce que l'avenir est moins ce sera pas aussi bon que leurs parents. C'est-à-dire que cette peur de déclassement est partout dans les pays développés. En Europe, aux États-Unis, même maintenant, c'est les pays développés en Asie, c'est pareil. Et puis ils vivent dans le système ultra-libéral, donc avec la concurrence sans limite et exigée dès leur jeunesse. Alors là, cette pression est vraiment plus que forte en Corée surtout. En tant que groupe de entertainment, BTS parle de leurs conditions. Et cette condition qui est vraiment exacerbée en Corée du Sud en tant que trainee est très parlante pour la jeunesse entière qui se trouve dans chaque pays, mais et dans une situation plus ou moins équivalente, dans le sens qu'ils ont peur de leur avenir. Dans ce système de concurrence, chaque individu est perdant et ils sentent au moment donné que vraiment dépression et ils se détestent parce que ils se sentent inutiles, etc. Donc cette spleen, je peux dire ce spleen de la génération, la jeunesse de ce monde-là, a découvert une source de consolation et solidarité, parce que je suis pas seule là-dedans, les autres sont pareils, et à travers la musique qui parle de cette difficulté, parfois injustice sociale, cette tristesse et lutte contre cette ce sentiment de détester de soi-même, donc pour trouver l'amour propre, a rencontré le public qui est international, qui se trouve dans le monde entier. Parce que maintenant les réseaux sociaux permettent cette création de solidarité.
Et puisque dans leur clip, dans leur vidéo, on voit, et je parle du dernier clip, hein, la présence des personnes âgées, handicapées, minorisées, comment est-ce dans le contexte de la société coréenne, hein, par exemple, ces personnes âgées, handicapées, minorisées, c'est trois tranches de populations différentes, on s'entend, mais comment est-ce qu'on voit finalement le groupe BTS au sein de la société coréenne, la façon dont BTS représente la société coréenne, parce que ton champ d'étude, c'est la transmission et la représentation des valeurs de société, la culture coréenne aussi, la façon dont donc la Corée est représentée aux yeux du groupe BTS, voilà.
Je pense que ce que vous dites, vous parlez de vidéo de Permission to Dance, donc une des dernières chansons, ils ont publié pendant la période pandémique. Non seulement Permission to Dance, c'était Dynamite, Permission to Dance and Butter, c'est trois, une sorte de triptyque qui est destiné directement au monde entier parce que c'est entièrement chanté en anglais. Et surtout dans la vidéo de Permission to Dance, on voit vraiment leur volonté de toucher tout le monde, parce qu'il y a les enfants, différentes ethnies, les âges, le petit, le grand, les gros, minces, il y en a tout. Mais ils sont des ethnies, ethniquement très très différentes et variées. C'était danseurs coréens, ils ont fait cette vidéo. Depuis quelque temps, de toute façon, leurs vidéos, surtout ces trois chansons, étaient faits pour une sorte de pour consoler le public, les gens qui les écoutent dans le monde entier, parce que leur popularité, même avant début de pandémie, était vraiment devenue vraiment mondiale. On voyait vraiment les fans partout dans le monde. Le leader de BTS tweet, on voit bien dans le monde entier combien dans le réseau tweet allume, ça se visualise, c'est vraiment dans le monde entier, même sauf peut-être Corée du Nord, mais il faut savoir que BTS, les chansons de BTS est très présent dans Billboard américain, mais dans d'autres Billboard de classement dans chaque pays, mais derrière eux il y a beaucoup de groupes coréens qui sont assez populaires, mais tellement le succès de BTS est grand, les autres sont moins visibles, mais il y a Blackpink, Seventeen, mais on peut énumérer les groupes longuement. Mais maintenant, il y a des groupes K-pop. On peut appeler K-pop parce que bon, ça se discute. Hein. Par exemple, je peux vous parler des SB19 qui sont philippins. C'est un groupe philippin, mais production est coréenne. Donc c'est une société coréenne. À la façon K-pop, on produit a produit ce groupe à travers audition, mais en Philippines, et puis qui mettent leurs chansons dans les billboards américaines à haut placé pendant longuement. Et donc K-pop a c'est pour ça que BTS on the road, c'est vrai. Le sens de ce titre, ils ont compris, ils ont voir, voilà, derrière eux, il y aura autre groupe, interculturel. Le BTS, dans BTS, qu'est-ce qui est coréen? Bien sûr, ils utilisent beaucoup les éléments culturels coréens, ils mettent des hanbok, donc, comme l'habit traditionnel coréen, ils les utilisent souvent. Même des danses, il reproduit les danses pour le grand occasion qui est vu dans le monde entier par YouTube, une des meilleures performances de ce groupe, etc. Donc pour la Corée, Ils ont un effet très positif pour la Corée, pour l'image de Corée. Mais pas pour autant qu'ils sont liés à notre culture. Ils n'ont pas une de leurs missions et quelque chose qui que propager la culture coréenne dans le monde. Pas du tout, pas du tout. Bah, je le vois de plus en plus. Vraiment un groupe réussi comme Beatles. On le compare souvent à Beatles. Pas nous. Hein, c'était les Américains, les Anglais. Qui ont comparé à Beatles avant tout le monde, qui ont donc comme ce genre de groupe internationalement populaire, ils vont continuer comme ça, mais pas pour autant avoir un lien culturel spécial avec la Corée. Bien sûr, ils sont coréens, donc comme vous avez dit. Qu'ils devaient aller au service militaire, vous vous rendez compte. Donc, c'est un moment national et très fort parce qu'ils sont coréens, parce que la Corée se situe à l'est de l'est entre la Chine et le Japon et au sud de Corée du Nord. Tout ceci ne pourrait jamais être effacé. Mais malgré tout, leur musique est de plus en plus globale. Ce que BTS avait rapport avec comment. UN, par exemple, Nations Unies, les ont invités deux fois. C'était une campagne avec UNICEF au départ. Ils parlaient pour la jeunesse du monde entier. Parce que leur rôle est très, très positif. Parce qu'il faut voir vraiment les fans. Pourquoi tu es fan? Qu'est-ce que tu fais en tant que fan? Qu'est-ce qui est le plaisir que tu as en tant que fan? La majorité de discours, étonnamment, c'est qu'ils disent que dans le pire moment de chacun de vie, pire moment de leur vie, que ils sont sauvés par la musique de BTS, avec le message qu'ils ont eu dans les chansons. Assez curieux de voir parce que c'est sans équivoque, c'est à répétition, que ce soit les âges, de plus en plus les personnes plus âgées disent la même chose, même 70 ans, j'ai entendu que eux ils sont leur anti, comment dire, ils ont la musique de BTS, c'est leur énergie, c'est anti comment dirais-je, anti-stress, anti-détresse, parce que dans leurs chansons, donc en plus en entrant dans la communauté de fans, ils découvrent vraiment en lien, c'est très fort à travers la musique, parce que les gens, le fait que les gens, même si dans le monde entier dispersés, aiment même musique et puis partagent en même temps presque liés avec une sens, avec liés bien sûr par SNS, liés réellement liés, parce qu'ils peuvent discuter tout le temps, leur donne une comment sensibilité. Une assurance socio-culturelle très forte. Je découvre avec beaucoup d'étonnement que cette solidarité peut aller très loin. Moi compris, les sociologues ont du mal à comprendre jusqu'à maintenant comment cette jeunesse fonctionne, parce que ce soit culturellement, socialement ou même politiquement, parce que quand on essaie de comprendre cette génération avec le système de comment l'idée politique qu'on a, on a du mal à comprendre parce que parti politique n'avait pas de sens, tout ça. Mais c'est leur façon d'être politique, à mon avis. Moi, je découvre ça dans comment ils fonctionnent à cette communauté de fans. Quand il y avait Black Lives Matter aux États-Unis, mouvement de Black Lives Matter aux États-Unis, les participants de ce mouvement, les jeunes. La jeunesse noire américaine fait appel direct à K-pop et BTS. Vous composez la musique avec la musique noire américaine. On est votre fan. On se sent solidaire, mais vous devez être solidaire avec nous. Et la réaction, BTS, membres de BTS, tout de suite ils ont fait donation d'$1 million. Et les fans ont fait un match donation de l'équivalent tout de suite en 24 heures. Et les certaines stars de K-pop aussi. Et puis, encore plus étonnant, c'est que lorsqu'il y avait des campagnes électorales de président, ex-président Trump, ils ont réservé la place à leur meeting, à son meeting politique, mais ils ont fait nos choix. Ils ont laissé vide la place. Avec beaucoup d'étonnement que Monsieur Trump a découvert que son meeting était boycotté par les fans de K-pop. Donc ceci est possible parce qu'ils ont cette, comment dirais-je, cette capacité d'organisation. Mais cette capacité d'organisation est quelque chose qu'on a vu naître au milieu des années 90 en Corée, avec première génération de K-pop. Oui, c'est pour ça que ces derniers temps, les chercheurs français s'intéressent en tant que culture de la jeunesse, parce que leur capacité politique, culturelle, je trouve que vraiment, il y a un truc à creuser là-dedans pour nous. Oui.
Oui, tout à fait. On pourra peut-être parler en dernier lieu de tes travaux actuels qui sont en cours, hein, parce qu'on a parlé de tes trois livres précédents, mais là tu travailles depuis plusieurs années sur la problématique des normes de beauté produites et reproduites dans la culture populaire coréenne par le biais des séries télévisées. Dans votre j'ai écouté qui a été enregistré il y a peu de temps à l'Académie d'études coréennes. Tu as qualifié de dangereux certaines normes par souci qu'elles aient des effets néfastes pour les peuples des sociétés de l'Asie de l'Est en particulier. Et on parle là de quel corps et de quelles représentations ou de quelles inéquités qui sont transmises dans ses discours et produites et reproduites dans la culture populaire.
Oh oui, ma recherche, un des thèmes importants, c'était une industrie de beauté coréenne qui est basée sur technique de Mi-Bec.
Et c'est pas seulement chez les femmes, c'est bien les hommes et les femmes, hein, c'est ça, ou les jeunes...
Oui, les femmes, les hommes aussi utilisent beaucoup de produits de beauté. Moi, j'ai été étonnée plutôt de voir ça. Alors, n'est pas venu cette technique de beauté est construite sur la durée et la peau blanche est toujours positive dans le monde entier. C'est pas avant même colonisation des blancs dans le monde, parce que la peau blanche signifiait vraiment donc travail, sous le soleil, donc classe supérieure, etc. Donc c'est naturellement, c'est comme ça. Mais c'est rendu, c'est devenu, colorisme de peau est devenu la base de cette racisme mondialisé depuis la période coloniale. C'est pour ça que cette produit de beauté qui développe en Corée avait à certaines possibilités post-coloniales et en même temps le danger de reproduire une sorte de hiérarchie de beauté dans la population asiatique. Parce que les stars coréennes avec cette technique, cette brillance, ces belles, cette beauté, et on a envie de l'avoir et puis à tout prix que à travers les produits de beauté, etc., on découvre en même temps ce danger de hiérarchisation de beauté basée sur ce traitement de peau quand on mal comprend que seulement c'est basé sur la couleur de peau. Donc il y a de dangers et des possibilités en même temps. Mais le danger va grandir plus que la Corée prenne force, devient plus forte non seulement économiquement et puis de plus en plus culturellement aussi. Et donc je vois vraiment il y a un réel danger là-dedans. Mais l'autre effet positif existe aussi parce que cela a rendu beaucoup de populations asiatiques, que ce soit aux États-Unis et dans le monde entier, que se sentent beaucoup plus valorisées, l'amour propre, de confiance en soi-même. Imaginez que c'est une population qui, surtout les hommes, regardaient un peu comment les Asiatiques avant dans les films hollywoodiens étaient représentés. Ils sont très beaux, très forts avec leur arts martiaux, mais ils ont jamais eu attiré le regard féminin. Ils étaient pas sexuels, tout simplement. Voilà, donc les stars majoritairement des stars de K-pop populaires sont majoritairement quand même les hommes. sont devenus sexopiles dans le monde. Donc, il y a une réelle possibilité et de danger en même temps dans cette, dans ce phénomène. Et quand vous avez parlé de corps, c'est vrai que les stars K-pop féminins, surtout, sont très, sont trop exigeants leur critère de beauté. Mais je pense ceci est en train de changer légèrement, mais en même temps qu'on connaît, c'est un problème que il y a des groupes féminins qui est beaucoup plus musculaire, un peu plus sportif que par rapport à avant. Mais bon, il y a beaucoup à faire là-dedans.
Mmh. Et on va conclure par dire que tu as deux enfants et les deux enfants peut-être trouvent très intéressant le fait que leur mère soit chercheur dans ce domaine, donc de la jeunesse, qui ressort de la jeunesse, qui ressort de la société coréenne, qui ressort d'une effervescence de la société coréenne, pas dans le sens traditionnaliste, mais dans le sens de la créativité, de à l'échelle mondiale, la production de connaissances qui sont asiatiques, qui sont coréennes. Alors tes enfants, est-ce que j'ai raison de croire qu'ils sont fiers et contentes de leur maman, mais qu'ils trouvent intéressant ton travail de chercheur et de finalement de sociologue médiatique?
Oui. Parce que bon, j'ai une fille et un garçon nés à 2000 et 2002 respectivement. Ma fille vit avec moi. Elle est peintre et auto-éduquée. Comment dirais-je? Elle a jamais appris à peindre ailleurs. Elle fait art numérique. Une grande partie est fan, donc l'art de fan. Mais elle est très avancée et elle partage beaucoup de choses avec moi. Mais surtout, c'est pas eux qui ont fier de moi. Je pense que c'est moi qui apprends beaucoup d'eux, de cette génération. Vraiment rien à voir avec la nôtre. Mon fils a découvert quand même parce qu'il est depuis 2 ans il est à Paris en faisant son étude cinématographique. Il a découvert son côté donc il est aussi coréen parce que en allant à Paris il se trouve beaucoup plus coréen parce que là dans cette école on apprend sur les cinéastes coréennes Park Chan-wook, Bong Joon-ho. Dans les cours, donc l'école cinématographique, ce sont des grands stars ces jours-ci. Donc, d'un coup, il découvre que ce que sa mère faisait en même temps que sa vie avait un sens beaucoup plus épais. En allant en France, et puis il découvre que la Corée fait partie de lui-même. Donc, c'est moi plutôt qui est beaucoup plus comment dirais-je, inspiré par mes enfants. Je les adore.
Eh bien, sur ce, nous allons terminer. Merci beaucoup, Madame Hong. Cela m'a fait très grand plaisir de pouvoir m'asseoir. Je te remercie grandement d'avoir partagé ces brins de vie à la fois personnels et professionnels, académiques, de ton parcours de chercheur, de polyglotte, de scientifique et au plaisir de se voir en personne et d'échanger à nouveau.
Merci de m'avoir invité.
Éventuellement de venir comme conférencière au CREFO.
Oui, dès que on peut voyager sans quarantaine, oui, je suis partante, oui.
D'accord. Alors, merci.
Vous avez aimé cet épisode? Faites-nous part de vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par courriel à crefo.oise@utoronto.ca.